RMC.
Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être champions d'automne.
C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
On s'est tapé dans la main en visio dans la nuit.
After Lyon,
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'After Lyon, le podcast qui débat de l'actu de l'OL tous les mardis, dispo sur toutes vos plateformes habituelles. L'équipe cette semaine, duo classique. Ils bossent main dans la main sur ce podcast toutes les semaines. Une association au Last Textor en quelque sorte. Salut coach Courbis.
Salut à tous.
Et salut Edouard Jay en direct de Lyon.
Salut Thibaut, salut coach, bonjour à tous.
Salut Doudou.
Bon, ça vous va cette petite association au Last Textor? Vous prenez, j'ai pas dit qui était qui. Hein.
Exactement, ouais. Tant que tu dis pas, ça va. Tant que tu dis, ouais. ça va. Pas de soucis.
Le moment est historique, messieurs. La vente de l'OL, c'est pour cette semaine. Le 30 septembre, John Textor sera, normalement, le nouveau patron du club. Explication détaillée du processus avec Edouard et surtout projection. Qu'est-ce qui va changer à partir de samedi? L'Olympique Lyonnais change d'air. Bonne ou mauvaise nouvelle, on en débat aujourd'hui.
RMC After Lyon.
Alors Edouard, déjà, faut expliquer, un accord ferme et sans conditions suspensives a été signé pour vendredi 30 septembre au plus tard. Est-ce qu'on est bien sûr que Textor va payer?
Le plan se déroule sans accroc majeur. Hein. C'est un plan initié et indiqué dès les conférences de presse du mois de juin dernier. On avait une assemblée générale parce que l'OL est coté en bourse le 29 juillet pour valider justement tout le plan. Il y a eu un passage aussi devant le CSE de l'OL. Voilà, tout le processus s'est fait et normalement, d'ici la fin de la semaine, d'ici le 30 septembre, eh bien, tout devrait rentrer dans l'ordre et il y aura un changement alors, capitalistique, hein, c'est important de le dire, même si Jean-Michel Aulas restera, selon un accord de gouvernance qui a été indiqué dès le mois de juin, hein, pendant 3 ans encore, au minimum, eh bien, le patron en fait, effectif du club, mais il ne sera plus l'actionnaire de référence qu'il était jusque-là, il sera un actionnaire minoritaire.
Alors juste, Edouard, soyons clairs, on est dans l'After Lyon, il y a cet accord qui a été signé en juin, on s'est tapé dans la main à distance, on l'a entendu, disait Jean-Michel Aulas. On était au début sur un milliardaire qui devait payer avec ses propres dollars, finalement, bon, il fait un emprunt, il change d'associé. Bon, il y a eu ces dernières semaines quelques motifs d'inquiétude. Edouard, le 30 septembre arrive vite. Hein, au moment où on enregistre ce podcast, on n'en est plus très loin. Il n'y a vraiment aucun doute au club. La transaction va se faire.
Alors, vous savez, c'est toujours, même quand on achète un simple petit appartement ou une maison, déjà, il y a des doutes jusqu'au moment où on signe. Hein, donc, il y a toujours des papiers à fournir. Donc là, vous imaginez le nombre de zéros qu'il y a avant la virgule. Donc, le nombre de dossiers et d'aller-retour qu'il a fallu faire en termes financiers, justement, et de preuves d'un certain nombre de choses. Alors, la seule chose qui s'est passée, parce que jusque-là, franchement, le plan se déroule sans accroc, c'est du côté des pactes d'actionnaires, de acheteurs, en l'occurrence, John Textor, qui était entouré d'un certain nombre de partenaires quand il a présenté le dossier, et l'un de ses partenaires finalement n'a pas eu les garanties escomptées. Alors je peux pas rentrer dans le détail parce que personnellement je les ai pas. Hein. C'est vraiment c'est vrai, voilà, et qui a été remplacé par quelqu'un d'autre. Donc c'est à la fois de l'ordre du détail, mais le diable est aussi dans le détail. Mais voilà, tout normalement devrait rentrer dans l'ordre d'ici la fin de la semaine, donc le 30 septembre, ça peut se finir à la fin du week-end, le 1er octobre ou le 2 octobre. Voilà, on est dans vraiment cette fin de mise en place en fait de ce pacte d'actionnaires, parce que faut vraiment se rendre compte que c'est une opération gigantesque, c'est déjà presque une exception d'arriver en trois mois à réaliser ce qui est en train de se passer.
Oui, d'ailleurs, on peut rappeler les sommes, Edouard, parce qu'il y a les parts. Parce que le début de la transaction, finalement, là, ce qui va se passer cette semaine et ce changement d'air dont on va débattre dans quelques instants, il est initié par le retrait, il y a quelques mois, des actionnaires historiques. Donc, quoi qu'il arrive, Jean-Michel Aulas a dû chercher une solution.
Oui, alors en fait, il faut remonter au mois de mars dernier, hein, quand Jean-Michel Aulas, de toute façon, c'est toujours, c'est maladroit quand on disait qu'il était actionnaire majoritaire, il était actionnaire de référence. Il avait 28% des parts, mais dans le pacte de gouvernance en interne, c'est lui qui menait, avec à ses côtés d'autres actionnaires de référence. En l'occurrence, le groupe Pathé, c'était historique depuis 1999, près de 20%, 19,56 pour être précis. Et puis un groupe chinois qui était arrivé en août 2016, qui avait lui aussi posé sur la table 100 millions d'euros pour à peu près 20% aussi. Donc il y avait, dès le mois de mars, 40% du club qui était en vente. Donc il fallait que quelqu'un rachète ces 40%. Donc tout au long du printemps, il a fallu que Jean-Michel Aulas, on en a parlé au mois de juin, bataille pour trouver un repreneur. Il a eu quelques dossiers, tous plus a priori américains, et il a jeté son dévolu sur John Textor, qui lui paraissait le plus à même de reprendre le dossier, et surtout, on en a beaucoup parlé, et c'est très important, qu'est Jean-Michel Aulas compatible, parce qu'il ne voulait pas que son club, qu'il a créé depuis, qu'il a remis sur l'échiquier, sur la carte du foot français, parte voilà, dans des mains sans qu'il ne maîtrise plus rien. Donc il fallait que la personne, et vous imaginez un peu la personne qui amène énormément d'argent, qui va prendre jusqu'au final, si tout se passe bien, jusqu'à 90% du club au niveau capitalistique, laisser 10% à Jean-Michel Aulas, mais finalement laisser les 10% commander, en l'occurrence Jean-Michel Aulas. Donc il fallait que le repreneur soit Jean-Michel Aulas compatible. Tout cela s'est fait au printemps, et ensuite il y a eu tout ce qui s'est passé cet été, parce qu'il y a par exemple ce qui juste a chopé à un moment donné et prolongé un petit peu les échanges, c'est la dette de l'OL qui est détenue par 13 banques différentes. Donc vous imaginez, parce que pour le stade, pour toutes les infrastructures, bien évidemment, il y a des dettes, l'OL n'a pas payé cash, et il a fallu gérer et tout travailler avec ces banques-là. Donc c'est pour ça que ça a un peu ralenti le processus, mais on est encore dans les temps, et normalement, le diable est souvent dans le détail, hein, ouais. En matière financière aussi, mais normalement, à la fin du week-end, il y aura ce changement, et donc l'OL qui va passer en mode accent US.
Et on va en débattre dans quelques secondes. Roland, juste avant de se pencher justement sur cette nouvelle ère et l'aspect sportif, toi tu n'as pas d'inquiétude là à entendre Edouard et de tout ce que tu as pu lire sur la transaction.
J'ai quand même la possibilité et le plaisir de connaître Jean-Michel Aulas depuis de longues années. C'est vrai que ça a dû être quand même très compliqué, parce que n'oublions pas que le club est en bourse, et donc il faut arriver aussi à mener à bien un petit peu cette transaction qui a pas dû être simple. Mais bon, je me fais pas trop de soucis sur ce que a pu faire dans cette négociation Jean-Michel Aulas. Je reste persuadé que Lyon sera encore plus costaud, et que lui-même sera encore le personnage le plus influent du club, je pense pas me tromper.
Alors justement, Lyon qui change d'air cette semaine, semaine historique, on le disait, bonne ou mauvaise nouvelle pour le club. Edouard, déjà préciser, qu'est-ce qui va changer à partir du, donc là, la date, le closing, la fin de la transaction, normalement vendredi, le 30 septembre, qu'est-ce qui change concrètement au 1er octobre à Lyon ?
Eh bien, quelque part, pour les choses visibles, rien. On aura toujours Jean-Michel Aulas qui sera là, on aura toujours les mêmes directeurs généraux dans la structure même. C'est la structure capitalistique qui va changer, parce que c'est pas tout à fait fini à la fin de ce week-end, hein, que ce soit le 30 septembre ou le 1er octobre ou le 2 octobre, parce que franchement il y a encore des petites pièces à régler, donc faut pas si tout n'est pas fini vendredi à minuit, tout ne va pas capoter. On n'est pas dans un scénario apocalyptique, mais après il va y avoir encore deux autres choses. Tu parlais de la bourse, John Textor l'a bien dit, l'OL sortira de la bourse. Donc il va falloir aussi procéder à tout ce changement donc d'ici fin novembre, en tout cas la fin de l'année. Et puis après il y aura aussi l'augmentation de capital. Donc ça c'est important, c'est 86 millions d'euros cash qui arriveront sur les comptes de l'OL, parce que comme on me le dit, hein, pour imager, il fallait d'abord dans un premier temps que John Textor et ses associés achètent la maison OL. avant de faire les travaux. Et c'est pour ça que cet été, il y a eu un petit imbroglio sur, vous savez, l'argent de John Textor pour le mercato et pourquoi il n'achète pas. Et non, l'argent, il va arriver là maintenant. Tout le mercato de cet été s'est fait sur les propres finances actuelles de l'OL. Donc, il va y avoir cet argent qui va arriver. Donc, potentiellement, s'il y a des besoins, par exemple, au mois de janvier, eh bien, sur ces 86 millions, il y a 40 millions qui peuvent aller sur le mercato, sur les filles ou sur les garçons.
L'argent, coach, ça va être une donnée nouvelle si l'Olympique Lyonnais a un peu plus d'argent à partir du 1er, 2 ou 3 octobre. Mais bon, on est bien placé en France pour observer que dans certains clubs, notamment, l'argent ne fait pas tout, ne fait pas gagner. Donc certes, Textor arrive avec son argent, mais est-ce qu'il est dit qu'avec cet argent, Lyon fera forcément mieux, que ce changement d'air sera forcément positif pour l'Olympique Lyonnais, Roland?
Disons que bon, j'ai un principe, enfin je n'ai pas que, mais pour que ça puisse aider un petit peu dans la situation dans laquelle se trouve Lyon. Oui, c'est vrai qu'avec de l'argent, tu n'es pas sûr de réussir. Mais sans argent, tu es sûr d'échouer. Donc ce qu'il y a de sûr, c'est que Lyon se restructure. La possibilité d'un mercato qui sera demain ou après-demain, hein, le mercato d'hiver, là, il arrive juste après la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui commence déjà dans un mois et demi. Donc voir l'Olympique lyonnais se renforcer pour la deuxième partie du championnat et avoir la possibilité justement de se renforcer, c'est quand même une très bonne nouvelle, même si 40 millions d'euros, dans certains prix de certains joueurs, c'est pas une énorme somme pour se renforcer, mais ça fait rien. Tu auras certainement un Lyon qui ne va pas s'affaiblir, ce qui a peut-être été un petit peu le cas avec le départ de Paqueta, mais qui était impossible à refuser ce montant de transfert.
John Textor qui arrive, Aulas, tu le disais, Edouard, qui sera là, toujours président. Enfin, c'est quand même du court terme, parce que Jean-Michel Aulas reste président. On est d'accord, Edouard, c'est pour 3 ans maximum. A priori, c'est pour 3 ans, mais il a quand même été prévu, a priori, que si jamais il se faisait virer, il prenait un chèque. Mais on n'est pas sûr qu'il fasse ses 3 ans.
Oui, après, Jean-Michel Aulas a 73 ans, peut-être que les années qui viennent, il veut peut-être un petit peu profiter, peut-être moins être, parce que c'est chronophage, ça prend beaucoup de force hein, de gérer un club, et l'année dernière, on l'a beaucoup dit dans ce podcast, l'année a été usante pour les joueurs, pour le staff, pour les suiveurs, pour les journalistes, mais vous imaginez les dirigeants à toujours affronter les colères des uns des autres, c'était un petit peu usé, et voilà, Jean-Michel Aulas a 73 ans, ça fait 35 ans qu'il mène le club. Oui. Donc voilà, alors donc c'est vrai que les nostalgiques vont dire que voilà, une page se tourne, les optimistes, et Jean-Michel Aulas fait partie de ces optimistes, il va nous dire que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre justement à l'OL avec lui pour 3 ans au moins, en tout cas déjà au moins jusqu'à, parce qu'il y a une date qui est quand même assez symbolique, c'est l'inauguration de l'Arena qui fera aussi pour l'ASVEL lors de ses matchs d'Euroleague d'ici la fin de l'année 2023. Donc là, c'est sûr qu'il sera encore là parce que c'est quelque part un peu son bébé là aussi dans la construction. Après, on verra comment ça va se passer. Et puis, il faudra voir aussi les relations entre les deux hommes hein, parce que là, on part aussi dans une part d'inconnu.
Et Roland, toi, tu fais partie plutôt, comme le disait Edouard, des nostalgiques ou des optimistes pour l'Olympique lyonnais?
Disons que je fais partie des observateurs dans le sens que si par exemple Jean-Michel arrive, et je serais pas étonné du tout, à tenir le coup encore pendant 3 ans et boucler cette énorme boucle dans 3 ans, il laissera derrière lui une époque qui aura été la construction d'un Olympique lyonnais totalement différent. Moi, il y a une cinquantaine d'années, j'ai eu la possibilité, je dis pas le plaisir, parce que c'était le stade le plus horrible que j'ai pu rencontrer en Ligue 1, en première division. Et voir ce vélodrome de Lyon avec le public à 100 mètres derrière les buts du terrain. Et qu'il y a déjà eu, dans un premier temps, le stade Gerland qui a été pour moi l'une des raisons de ce nouveau Lyon redoutable qui a quand même eu la possibilité et qui a fait l'exploit d'être 7 fois d'affilée champion de France. Le Paris Saint-Germain, avec les possibilités grâce aux Qataris, n'a pas réussi à être 7 fois d'affilée champion de France, ce qui est pas du tout simple. Et là, ben, on pourra, disons que, regarder attentivement le parcours de Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique Lyonnais, ben c'est un parcours tout simplement extraordinaire.
Mais justement, le gars Edouard Roland, il n'y a pas un risque que voilà, Textor arrive et que finalement tout ça soit cassé, balayé d'un revers de manche?
Oui, mais donc, compte tenu, et on touche du bois, le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est un problème de santé pour Jean-Michel. Mais même dans 3 ans, s'il n'est plus officiellement ni actionnaire ni à la tête, il sera toujours aux côtés de Textor pour lui donner des petits conseils, puisque Textor, qui s'embarque dans une situation qui n'est pas évidente du tout, réussir dans un club aussi énorme, dans une grande ville, avec des supporters qui sont quand même compétents et qui connaissent ce qui se passe sur un terrain de football ou dans les coulisses, mais qui sont aussi souvent... Allez, un petit peu exigeant, voire même trop exigeant. Eh ben, je crois que il laissera jamais comme ça, même si c'est bénévolement, même si c'est amicalement, il laissera jamais de son vivant l'Olympique de Lyonnais.
John Textor, sachant que nouveau patron,
l'OL gagne quand même là-dedans un associé actif qui va donc déjà amener les 86 millions, une partie pour épurer la dette, pour les infrastructures, et 40 millions pour un éventuel mercato, mais surtout gagne un associé actif parce que je vous parlais de Pathé et IDG qui ont quitté le navire. Eux, ils étaient quelque part des associés dormants, donc il y avait moins ce côté échange, apport d'idées que pouvait notamment amener un Jérôme Soucy.
Voilà. Je ne sais pas si ça existe, mais c'était des associés de la famille.
Et on les embrasse s'ils nous écoutent, comme on dit dans ces cas-là. Je voudrais juste vous faire écouter, les gars, le nouveau patron de l'OL, enfin futur, normalement, au 1er octobre, John Textor, au moment de cette conférence de presse qu'il a donnée, souvenez-vous, au mois de juin, aux côtés de Jean-Michel Aulas, au moment de la signature de l'accord. Bah, pour souvenir un peu, quel est l'ambition du nouveau patron olympique lyonnais, John Textor, en juin.
Quand on a acheté Botafogo au Brésil en deuxième division, il n'avait pas gagné de titre pendant plusieurs décennies. Et on a réussi à battre Flamengo la saison dernière. On veut gagner des championnats. Jean-Michel veut revenir sur le devant de la scène européenne. Moi, je veux gagner la Ligue des Champions. J'espère qu'on va pouvoir rêver de ça.
Bon, gagner des championnats, ok, pourquoi pas, même s'il y a le PSG. La Ligue des Champions, bah, faudrait déjà retourner en Coupe d'Europe. Est-ce qu'on est sur un discours? Est-ce qu'il faut prendre le côté ambitieux et donc c'est bien, il est là pour gagner, ou il a un côté un peu déconnecté de la réalité? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je ne pense pas qu'il est déconnecté de la réalité, parce qu'il a dû se renseigner, pas seulement pour faire une grosse affaire avec cet investissement. Mais quand on voit ce qui a pu se passer sur les 10 dernières années, logiquement, le Paris Saint-Germain ne pouvait pas ne pas être champion. Eh bien, ça s'est quand même passé 3 fois, que ce soit avec Montpellier une fois, Monaco une fois et Lille une fois. Et pour moi, c'est une anomalie. J'en trouve 2 d'anomalies. Qui n'ait pas pu y avoir ni l'Olympique de Lyonnais, ni l'Olympique de Marseille à la place de Monaco, Montpellier ou Lille, ben on pourrait penser que ça aurait pu se passer. Et donc, du côté de Marseille, ben on espère aussi augmenter les possibilités financières pour être peut-être à la tête d'un exploit. Du côté de Lyon, pareil. On se dit, si Monaco l'a fait, si Lille l'a fait et si Montpellier l'a fait, pourquoi pas Lyon? Edouard, donc ça, ce sont des calculs qui ne sont pas des calculs de mecs uniquement expérimentés. Qu'ils soient expérimentés, inexpérimentés, ça, bien sûr, mais ça n'empêche pas que, vous inquiétez pas, des gens comme ça, ils savent s'entourer. Il va rapidement, avec Jean-Michel à côté, gagner du temps, parce que Jean-Michel, il va toujours aider celui qui le remplace pour que son Olympique lyonnais soit toujours à la tête du football français.
Edouard, rapidement, sur les ambitions là, de Textor.
Il faut rappeler que la dernière fois qu'il y avait une telle opération, c'était en 99, quand Jérôme Sédou et le groupe Pathé étaient entrés avec 100 millions de francs à l'époque. Derrière, c'était le recrutement notamment de Sonny Anderson. Et puis derrière, Coupe de la Ligue, 7 titres, dont un doublé en 2008. Donc, il peut y avoir cette même mayonnaise qui prenne dans le bon sens. Mais là, faut pas oublier qu'on est avec des Anglo-Saxons, des Américains qui ont peut-être une autre vue du sport et du foot business, même si quelque part ils achètent le plus américain des clubs français parce que le club de l'OL, et c'est ça aussi qu'ils achètent, hein. Ils achètent le stade, ils achètent les infrastructures, la future salle, et donc ça aussi, ça a attiré les investisseurs américains.
Plus optimiste que nostalgique, Edouard, j'aime ça, cette façon de finir cet épisode.
Le pire n'est jamais certain.
Et oui. Dimanche 20h45, après la trêve, on retrouve l'OL à Lens, et déjà un match important pour l'Olympique Lyonnais, sixième et qui reste sur 3 défaites en Ligue 1. Edouard, coach, merci beaucoup les gars.
Salut, rien, à la prochaine.
On parle à la prochaine. Oui, avec plaisir. Merci à Jimmy Brown. On reviendra sur ce Lens-Lyon probablement la semaine prochaine. Merci à vous surtout d'être fidèles au rendez-vous ou de nous rejoindre si c'était votre première écoute. Soyez les bienvenus. Parlez-en autour de vous. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau podcast After Lyon. Ciao.
RMC After Lyon.